Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au livre des Actes des Apôtres. S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit : Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Philippe prit alors la parole et, partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit : Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Il fit arrêter le char, ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Mais quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit son chemin tout joyeux. Parole du Seigneur. Peut-être avez-vous été sensible dans votre méditation de ce jour aux correspondances, absolument volontaires d'ailleurs, qui existent entre le grand récit de la fin de l'évangile selon Saint-Luc, la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, et cette rencontre de Philippe avec l'eunuque dans les Actes des Apôtres. Dans les deux cas, il y a un cheminement, il y a une route, et c'est d'ailleurs la même route qui part vers l'Éthiopie et qui passe par Emmaüs. Il y a des deux côtés un personnage ou plusieurs personnages en route qui sont dans l'incompréhension. Il y a quelqu'un qui vient rejoindre sur la route celui ou ceux qui ne comprennent pas et qui, en chemin, vient éclairer le sens des Écritures, vient rendre le cœur tout brûlant en ouvrant les Écritures et en annonçant la bonne nouvelle du salut. L'accueil de la parole de Dieu, de sa signification dans les deux cas, invite à une prière. « Reste avec nous, Seigneur », disent les disciples d'Emmaüs. Quant à l'eunuque dans les Actes des Apôtres, il exprime son désir de recevoir le salut. « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» La fraction du pain dans une situation, le baptême dans l'autre situation, comble les cœurs et les ouvre au secret de la vraie joie, celle du salut. Ces deux cheminements, avec leur progression et avec leur accomplissement, nous renvoient à notre propre accueil de la parole de Dieu. Depuis hier soir, nous sommes aussi en cheminement. Nous avons accueilli celui qui nous parle et sa parole. Nous l'avons médité en creusant la signification. Nous venons de prendre le temps d'y répondre en prenant à notre tour la parole, en osant prendre la parole. Peut-être nous sommes-nous rendus compte d'ailleurs que ce n'était pas toujours si facile de formuler ainsi notre prière de réponse, de la déployer. Nous en arrivons maintenant à la dernière étape de notre journée de Lectio Divina, à ce temps d'accomplissement de la pédagogie de l'accueil de la parole de Dieu qui est la contemplation. Cet après-midi, dans cette petite conférence, je voudrais tout d'abord vous donner quelques indications concernant cette quatrième étape et donc la fin de cette journée de Lectio Divina. Je reviendrai ensuite un petit peu sur l'ensemble du parcours d'une journée de Lectio Divina. Comment donc terminer cette journée et vivre ce temps d'accomplissement dans la contemplation ? Je vous invite à prendre un temps de prière silencieuse pour faire l'expérience de cette présence du Christ ressuscité dont nous avons déjà parlé. Rappelez-vous ce que je vous en avais dit hier, le Christ est présent, celui qui nous parle est présent, aux trois sens du mot présent en français, c'est-à-dire qu'il est ici, maintenant, comme celui qui se donne. Le temps de la contemplation au terme de tout ce parcours d'accueil de la parole nous invite à goûter, à faire une expérience personnelle de la rencontre avec celui qui est présent à notre existence. Nous sommes invités à entrer dans le silence, non pas un silence vide, mais un silence plein, riche de toute la parole de Dieu qui nous a nourris depuis le début de cette journée de retraite. Dans une retraite habituelle de Lectio Divina, ce dernier temps de la journée consacré à la contemplation est vécu de manière très eucharistique, par un temps en général d'adoration eucharistique et par la célébration de la messe, puisque vous vivez cette retraite chez vous, vous ne pouvez pas évidemment la vivre de manière aussi directement eucharistique. Et pourtant, c'est bien un temps d'adoration que je vous convie. Ce temps de silence que vous allez prendre, qui peut être d'une durée d'au moins une demi-heure, et il importe que ce soit un temps qui vous fasse faire l'expérience du don de vous-même, un temps gratuit, un temps donné. Ce n'est plus le temps de la lecture. Ne cherchez surtout pas à meubler ce temps. Il faut accepter d'entrer dans cette étape de silence, un temps gratuit que l'on ne maîtrise pas, en tout cas durant lequel on ne maîtrise pas tout à fait ce que l'on vit. Et pour cela même, ce temps est parfois déconcertant. Et nous avons, je pense, tous fait l'expérience d'une prière silencieuse qui est un petit peu difficile à vivre, en tout cas à tenir dans la durée. Et pourtant, il ne faut pas avoir peur d'affronter cette durée durant laquelle nous apprenons à nous rendre présents à celui qui est présent. En effet, si la contemplation, c'est découvrir, grâce au don de la parole et à la parole échangée, à quel point notre Dieu est un Dieu qui est présent, dans les trois sens du terme, je vous le rappelle, l'enjeu de la contemplation est également, et j'allais dire peut-être surtout, non pas seulement de prendre conscience de cette présence du Seigneur, mais d'apprendre à son école à devenir nous-mêmes à notre tour présents, c'est-à-dire à vivre un peu plus pleinement ici, maintenant, et apprendre à nous donner. Ici et maintenant, c'est apprendre à ne pas partir simplement dans nos rêveries, dans notre imagination, souhaiter être ailleurs, mais apprendre en quelque sorte à être dans le maintenant de notre existence, au sens où nous le prions dans le « Je vous salue Marie », comme le grand moment de notre existence. Nous prions dans « Je vous salue Marie », je vous rappelle, pour maintenant et à l'heure de notre mort. Comme nous ne connaissons pas l'heure de notre mort, le moment qui nous appartient, c'est ce maintenant. Et c'est ce maintenant qui est le seul moment, et c'est là où nous sommes, qui est le seul lieu où nous pouvons vivre cette rencontre avec le Seigneur, où nous pouvons recevoir celui qui se donne à nous et nous donner à lui. Voilà très précisément ce qu'est la contemplation. Ce qui vous appartient, c'est la manière dont vous allez entrer dans ce temps de prière silencieuse. C'est tout ce que vous allez mettre en œuvre pour aller vers cette rencontre. C'est tout d'abord prendre conscience que ce temps est un vrai temps de rencontre avec celui qui nous a parlé et à qui nous avons parlé. Et alors nous pouvons arriver avec le fruit précisément de la lecture, de la méditation, de la parole de Dieu. Et nous pouvons arriver également avec notre propre prière de réponse, celle que nous venons de formuler. Elle peut vraiment nous aider à nous mettre en présence de celui à qui nous offrons ce temps d'adoration. Quand vous avez terminé ensuite le temps de contemplation, alors vous pouvez rendre grâce, non pas seulement pour cette expérience de la présence du Seigneur durant ce dernier temps de la journée de Lectio Divina, mais bien rendre grâce pour tout l'accueil de la parole de Dieu depuis une journée, puisqu'après ce temps de contemplation, eh bien vous aurez terminé la première journée de Lectio Divina. Au terme de cette première journée, avant donc le dîner, si vous avez bien suivi le rythme que je vous ai proposé, je vous invite à faire un tout petit bilan de la manière dont vous avez pu vivre déjà cette première journée, du rythme que vous avez réussi à trouver, ou pas tellement. Peut-être pour la lectio du soir, mais ce n'est pas le plus difficile. Plutôt la manière dont vous avez pu organiser votre matinée et puis cet après-midi. Après le dîner, vous entrerez dans une nouvelle journée de lectio divina, la deuxième journée de notre retraite, avec une nouvelle feuille de référence que vous avez dû recevoir avec l'envoi de cet enregistrement audio. Je vous rappelle en quelques mots comment vivre les deux premières étapes d'une journée de lectio, celle que vous vivrez ce soir donc après le dîner et puis celle de demain matin avant la nouvelle conférence. Pour ce soir, je vous rappelle, c'est vraiment ce temps d'accueil, d'écoute de la parole et donc pas encore le temps de la méditation. Mais il faut prendre du temps quand on lit les textes pour pouvoir les goûter, les lire une fois, je vous dis peut-être une deuxième fois, voire pourquoi pas certains passages une troisième fois si c'est nécessaire. Si vous aimez écrire, et je vous recommande beaucoup de passer par l'écriture, n'hésitez pas à écrire certains versets qui prennent déjà un peu plus d'importance à cette première lecture du soir. Et puis faites vraiment cette expérience un peu décapante au début, puisque nous voulons souvent immédiatement passer trop rapidement à la méditation, mais acceptez cette expérience d'une forme de passivité où vous êtes entièrement dans l'accueil. Saint Césaire d'Arles, un père de l'Église de Provence, avait cette formule pour parler de la lecture. Il disait qu'il fallait considérer les textes de l'Écriture sainte comme des lettres envoyées du paradis par celui qui nous aime. Eh bien, je reprendrai cette image en vous invitant à prendre ce temps de lecture, comme lorsqu'on lit la lettre de quelqu'un qu'on aime bien. Vous savez que lorsque vous recevez une facture d'un côté et puis la lettre de quelqu'un dont vous attendez avec impatience des nouvelles, eh bien, vous ne lisez pas du tout ces deux lettres de la même manière. La lettre de celui que vous aimez, vous allez prendre le temps de la lire une première fois pour en découvrir le contenu. Vous allez la relire pour essayer de goûter ce que la personne a voulu dire, de communier ce que la personne a voulu dire. Évidemment, pour une simple facture, vous n'accorderez pas le même soin. Eh bien, pour cette première étape de la lecture des textes qui vous sont proposés ce soir, c'est à cette qualité d'accueil d'une parole de quelqu'un qui nous aime que je vous convie. Je vous invite à faire l'expérience de cette qualité-là de lecture, de cette qualité d'écoute, de cette qualité d'accueil. Toujours sous la conduite de l'Esprit-Saint, ne l'oubliez pas. Quant au deuxième temps de l'Lectio Divina, celui que vous prendrez demain matin et qui est consacré, je vous le rappelle, à la méditation, il est important, je vous l'avais déjà dit, de lire tous les textes qui vous sont proposés, peut-être un peu plus rapidement que ce que vous aurez fait ce soir. Vous lisez tous les textes et vous vous arrêtez sur quelques points qui ont retenu votre attention à cette double lecture, celle du soir et celle du matin. Et ce sont ces points-là qui vont être les éléments de votre méditation. Avec ces deux questions, je vous les rappelle. Qu'est-ce que cette parole nous dit de celui qui nous parle? Et qu'est-ce que cette parole nous dit pour nous? Comment est-ce qu'elle éclaire notre vie? Je vous invite également, si vous le souhaitez bien sûr, à mettre par écrit quelques éléments de cette méditation. Il me reste quelques minutes pour prolonger la méditation des textes qui nous ont nourris aujourd'hui. Je voudrais simplement revenir sur quelques petits points, sur la richesse et la fécondité de la parole de Dieu telle qu'elle apparaît dans les textes de ce jour. C'est vrai, avec les disciples d'Emmaüs, nous l'avons déjà évoqué, cette parole qui a rendu leur cœur tout brûlant. Mais c'est vrai aussi pour l'eunuque, lorsque Philippe vient le rencontrer et que l'eunuque est en train de lire une parole qu'il ne comprend pas. Cette parole parle d'une postérité, c'est-à-dire d'une fécondité. Et pour cet eunuque, cela peut prendre un sens particulier, puisque lui-même est sans possibilité de fécondité, de descendance, eh bien, dans la parole de Dieu et grâce au témoignage que Philippe va en donner, grâce au cheminement que Philippe permet à cette eunuque de faire avec la parole de Dieu, cette parole de Dieu va être capable de créer chez cette eunuque la possibilité d'une nouvelle fécondité, d'une nouvelle postérité. Il est celui qui partira chez les siens pour y annoncer la bonne nouvelle du salut. Une parole qui porte la vie. Toujours à propos de la parole de Dieu, vous pouvez d'ailleurs noter les liens que ces textes font entre la parole du Seigneur et la route ou le chemin. Ou pour le dire autrement, comment la parole de Dieu donnée transforme le chemin en lieu de cheminement intérieur. Cela signifie qu'il faut toujours du temps pour que cette parole de Dieu puisse déployer son fruit, sa puissance de vie et sa fécondité, et que la parole de Dieu se met à notre rythme, ou plus exactement, la parole de Dieu nous est donnée, et c'est progressivement qu'il nous faut en déployer toute la richesse. Jésus dans l'Évangile et Philippe dans les Actes des Apôtres, chacun accompagne sur la route ce cheminement de celui ou de ceux qui précisément accueillent la parole pour que cette parole, petit à petit, se fasse un chemin jusqu'à leur cœur pour qu'ils puissent alors exprimer leurs désirs et vivre l'accomplissement de cette parole dans la perception, dans l'expérience de la présence de celui qui parle. Et je voudrais terminer ces quelques réflexions par ce qui se passe lorsque les disciples d'Emmaüs arrivent au village, chez eux, et qu'ils invitent Jésus à rester avec eux. Voilà comment s'exprime saint Luc. Il advint, comme il était à table avec eux, que Jésus prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. La succession de ces verbes est importante et elle donne la dimension eucharistique de ce repas. Il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Mais ce qui est le plus intéressant est probablement ce qui vient ensuite. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. La formule en grec, littéralement, chez saint Luc, c'est « leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent ». Or, le seul autre endroit de l'Écriture où nous trouvons une formule semblable, c'est en Genèse 3, lors du péché d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont pris le fruit de l'arbre, il est dit que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils connurent qu'ils étaient nus. Ici, nous sommes bien dans l'inverse de la situation d'Adam et Ève. Ici, il n'y a plus un couple qui cherche à s'emparer de ce qui est défendu, mais il y a au contraire deux disciples, pourquoi pas d'ailleurs un couple de disciples, qui au contraire accueillent ce que Jésus leur donne. Alors leurs yeux peuvent s'ouvrir, non pas sur leur misère et leur pauvreté, comme c'était le cas pour Adam et Ève, mais au contraire sur le salut, sur la révélation de la présence pour toujours auprès d'eux du ressuscité. Celui-ci peut désormais disparaître à leur regard puisqu'il reste avec eux. Il y a dans ce texte de Luc 24 l'inverse donc de Genèse 3. Le fruit jadis usurpé par Adam et Ève est devenu le don de l'Eucharistie offert par Jésus, Jésus s'offrant lui-même à ses hôtes. Comme au commencement de l'humanité, les yeux s'ouvrent, ce n'est plus sur le dénuement, la vanité, mais c'est au contraire désormais sur la plénitude d'une présence qui n'a plus besoin du support de la visibilité. La tristesse qui voilait le regard des disciples se change alors en joie communicative, partagée sans plus attendre avec la communauté de l'Église naissante à Jérusalem. Jésus lui-même, aujourd'hui, s'est manifesté à vous, il s'est révélé par le don de sa parole et vous avez pu en recueillir le fruit. Alors je vous invite maintenant à entrer dans l'accomplissement de ce parcours, dans ce temps de contemplation, à la rencontre de celui qui s'est donné lui-même pour vous et à vous, pour faire naître et jaillir dans votre cœur une joie que nul ne pourra vous ravir, et c'est cette joie dont vous pourrez devenir les témoins.